Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mercredi 27 mai 2026, ça va, tout le monde va bien. Faites pas le chameau, buvez de l'eau, posez-vous devant le ventilo, une petite glace à l'eau. Ça y est, vous êtes dans les meilleures conditions possibles pour le flash d'Anna. Ouais,
merci
à toi
beaucoup.
Anna.
Nommé depuis un peu plus d'une semaine, Mohamed Odeh n'aura pas eu le temps de prendre ses marques. Israël affirme l'avoir éliminé dans une frappe à Gaza. Mohamed Odeh, c'était qui ? Bah, c'était le nouveau chef de la branche armée du mouvement islamiste palestinien, le Hamas. Il a été visé hier par une frappe à Gaza, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis octobre. Sa mort survient 11 jours après celle de son prédécesseur, Ezzedine Al-Haddad. Benyamin Netanyahou tient sa promesse. Il continue à traquer et éliminer les cerveaux de l'attaque du 7 octobre 2023. Le Hamas n'a pour l'instant pas réagi. Des salariés qui vont s'en mettre plein les poches. Samsung Electronics, le géant sud-coréen spécialisé dans les puces mémoire, vient de passer un accord avec les salariés syndiqués de l'entreprise. L'accord prévoit des primes colossales annuelles liées aux profits générés par l'IA. L'accord ratifié à 73% et voté électroniquement s'est étalé sur 5 jours jusqu'à aujourd'hui. La semaine dernière, Samsung Electronics et sa confédération syndicale se sont mis d'accord in extremis pour éviter une longue grève. Celle-ci aurait affecté toute l'économie sud-coréenne et les chaînes d'approvisionnement de la tech mondiale. Depuis ce matin, 8h, les travailleurs modestes, grands rouleurs, peuvent faire la demande d'indemnité de 100 euros mise en place par le gouvernement. Solène, tu nous expliques comment ça marche ?
Avec la hausse des prix du carburant due au conflit en cours au Moyen-Orient, le gouvernement a mis en place une aide pour limiter les effets de cette hausse. Cette aide est destinée aux actifs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, entre autres. D'abord fixée à 50 euros, l'aide carburant pour les grands rouleurs est passée à 100 euros la semaine dernière, ce qui correspond à 20 centimes d'euros par litre de carburant en moyenne pendant 6 mois. Elle sera versée sur le compte bancaire du bénéficiaire sous 10 jours après la validation du dossier. Mais tout le monde n'est pas concerné par cette indemnité, elle cible seulement 3 millions de salariés, d'indépendants et d'indépendantes, contraints de beaucoup rouler. Et ça ne s'arrête pas là, plusieurs conditions sont nécessaires pour être éligible à cette indemnité. Il faut tout d'abord être domicilié fiscalement en France et appartenir à un foyer dont le revenu fiscal de référence par part de l'avis d'imposition est inférieur ou égal à 16 880 euros. Vous n'êtes pas éligible si vous étiez redevable de l'impôt sur la fortune immobilière en 2024. Et pour être catégorisé comme grand rouleur, vous devez parcourir au moins 30 km aller-retour par jour entre votre domicile et votre lieu de travail, ou alors parcourir au moins 8000 km par an dans le cadre de votre activité professionnelle. Enfin, on ne peut bénéficier que d'une seule indemnité carburant et l'aide ne peut être accordée qu'une seule fois par véhicule. Le formulaire à remplir est à retrouver depuis ce matin sur l'espace personnel du site impots.gouv.fr. Il faut y renseigner son état civil, son numéro fiscal, le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé et le numéro de la carte grise. Le demandeur ou la demandeuse doit également certifier sur l'honneur qu'il ou elle remplit les critères d'indemnisation. La Direction générale des finances publiques a annoncé que des contrôles seraient effectués pour éviter les fraudes.
Merci Solène. Et donc le formulaire est disponible pendant 2 mois à compter d'aujourd'hui, c'est bien ça ?
C'est ça.
6 semaines derrière les barreaux, c'est un peu court, me direz-vous. Bruno Lafont, ex-PDG de Lafarge, et Christian Hérault, son ancien directeur général adjoint, ont été libérés sous contrôle judiciaire hier par la Cour d'appel de Paris. Condamnés par le tribunal correctionnel à 6 et 5 ans de prison ferme pour financement du terrorisme en Syrie, ils sont incarcérés depuis mi-avril à la santé. Ils sont reconnus coupables d'avoir versé en 2013 et 2014 près de 5,6 millions d'euros à des groupes djihadistes armés. Mais pour quelles raisons, me direz-vous ? Eh bien, maintenir l'activité d'une cimenterie à Jalabiya dans le nord de la Syrie, alors que la guerre civile ravage le pays et que l'État islamique étend son emprise sur la région. La Cour a estimé que la détention provisoire n'était pas indispensable, tenant compte notamment du choc carcéral subi. Ils devront verser des cautions respectives de 100 000 et 90 000 euros avant le 2 juillet et ne pourront pas quitter le territoire français dans l'attente d'un nouveau procès. Pendant des décennies, l'État a failli. Un texte de loi vient peut-être d'en tirer les conséquences. La Commission des affaires culturelles et de l'éducation a approuvé hier une proposition de loi issue des révélations de l'affaire Betaram. 11 articles qui visent à mieux protéger les enfants contre les violences en milieu scolaire et périscolaire. Ce texte nécessaire reconnaît les défaillances de l'État en instaurant une journée d'hommage le 19 novembre. Il allonge aussi les délais de prescription pour la non-dénonciation de violences sur mineurs. L'interdiction absolue des châtiments corporels est aussi inscrite dans ce projet de loi. Il sera examiné en séance plénière le 1er juin. Suite de l'enquête autour du drame de Théo. L'adolescent de 11 ans a été retrouvé mort dimanche dernier au bord de la Vilaine à Rennes, une serviette de bain nouée autour du cou. L'autopsie a finalement bien confirmé une mort par strangulation. Un garçon de 16 ans et une fille de 15 ans, placés en garde à vue lundi, ont avoué hier l'avoir tué. Le motif semble dérisoire. Ils se sont vengés en récupérant du matériel de pêche d'une valeur de quelques dizaines d'euros. Ils sont présentés aujourd'hui au tribunal en vue d'une possible mise en examen pour meurtre sur mineur. Un élève de terminale de 17 ans a été blessé au cutter hier mardi au lycée Bréquigny de Rennes. Atteint de deux plaies au flanc et à l'abdomen, il a été transporté en urgence au CHU de Pontchaillou. Son pronostic vital n'est pas engagé, l'auteur présumé des coups, également âgé de 17 ans et connu de la victime, a été interpellé. Une enquête est en cours. Ce sont des lieux essentiels pour la vie sociale des quartiers et villages. Pourtant, les commerces de proximité traversent de nombreuses difficultés. Inflation, habitudes de consommation changeantes, pouvoir d'achat en baisse. La crise économique actuelle est une épreuve, notamment pour les petits bars associatifs. À l'occasion des 10 ans du Guibra, le bar-épicerie de Saint-Sulpice-la-Forêt, Louise Picard y est allée pour voir comment se porte le lieu.
Nous sommes en 2026 après Jésus-Christ, dans un petit village d'irréductibles gaulois à Saint-Sulpice-la-Forêt. On retrouve une ancienne bâtisse à la porte bleue et à l'enseigne en fer forgé noir, rue de la Grange, le Guibra. C'est l'unique épicerie de Saint-Sulpice-la-Forêt, petite commune de Rennes Métropole. À l'intérieur, un bar avec des tables, des chaises et une cheminée. Un coin jeu pour les enfants. Au mur, des œuvres exposées. Et au fond, en montant trois marches, une petite épicerie. On y retrouve un habitué venu prendre un café.
Là, c'est un peu notre point de ralliement, prendre un café, faire des courses, venir voir un concert ou de la musique. Enfin, il y a plein de choses qui se passent ici.
Depuis 2019, le Guibra fonctionne grâce à une collégiale. Bertrand, Gwen et Anathaël sont membres et bénévoles du Guibra. C'est grâce à eux que ce lieu fonctionne. Ils nous en parlent.
C'est toujours les citoyens, les villageois qui font vivre ce lieu, les bénévoles. Les salariés sont très impliqués aussi. Elles apportent, elles apportent énormément à la structure. On sent que les villageois ne veulent pas le perdre. Et du coup, il y a encore un autre truc qui arrive là, qui est vraiment très chouette.
La situation actuelle du Guibra, économiquement, elle est tendue. On est confronté à tout un tas de difficultés. Alors, certaines sont inhérentes à la situation économique, côté inflation. Puis l'évolution aussi des habitudes de consommation font que les gens regardent sérieusement au prix et vont plutôt privilégier d'autres sources d'approvisionnement pour leur nourriture. Il y a des effets aussi liés à la situation des petits commerces où en fait pour accéder aux produits que l'on vend, on est obligé de passer par des plateformes avec lesquelles on n'a pas de moyens de négociation sur les prix. Donc on est obligé de vendre nos produits à prix fort en quelque sorte. En tout cas, les membres de l'association qui sont présents aujourd'hui ont vraiment pris conscience que le socle, c'est le commerce et notamment notre épicerie. Et qu'il faut qu'on ait des clients pour que ça tourne. Comme on est une association, on a toujours besoin de bénévoles pour nous donner un coup de main, pour nous aider. Et puis, on n'a pas encore un modèle économique complètement viable, donc on a aussi besoin de soutien financier. C'est au travers des soutiens publics, des subventions qu'on peut aller chercher, et puis aussi au travers d'appels aux dons que l'on peut faire de temps en temps pour faire en sorte que notre projet réunisse le plus grand nombre et des soutiens directs dans la mesure du possible de chacun.
Le Guibra fête ses 10 ans, alors si vous voulez soutenir ce lieu, n'hésitez pas à venir le découvrir le week-end du 29 mai. Café, tricot, spectacle burlesque, concert, il y aura forcément quelque chose pour vous plaire. Retrouvez toute la programmation sur leguibra.fr ou sur leurs réseaux sociaux Instagram, Facebook. Et maintenant, direction le garage dans le quartier de Villejean pour la 6e édition du festival Nomadance. L'événement est organisé par l'association Danse à tous les étages, dont Natacha Lefrène est la directrice.
Nomadance, c'est un festival qui a été créé en 2021, donc on en est à la 6e édition, qui est un festival itinérant porté par notre association Danse à tous les étages, qui est un centre de développement chorégraphique national itinérant en Bretagne. Et Nomadance, c'est vraiment un festival qui nous fait voyager, puisque c'est un festival itinérant qui nous amène de Rennes à Brest, en passant par le canal de Nantes à Brest et le centre Bretagne, avec l'enjeu vraiment présent dans le festival de faire dialoguer des projets artistiques avec des paysages, de faire, je dirais, surgir la danse dans des endroits inattendus et de mettre aussi des corps en mouvement qui sont pas forcément des corps de danseurs habituels, donc des propositions aussi tout à fait participatives. Nomadance, c'est un festival qui se déroule du 27 mai au 7 juin. Donc dans 12 jours, 8 villes avec une trentaine de partenaires. Il y aura en tout 24 rendez-vous artistiques, dont 15 représentations, mais aussi des projections, des ateliers, des workshops, des rencontres professionnelles. Et donc pour la partie rennaise, puisque c'est un festival régional, ça se déroule à partir de ce soir, mercredi 27 mai, et jusqu'à vendredi 29 mai, avec différentes propositions qui se dérouleront notamment au garage.
Des propos recueillis par Solène Canquet.
C'était le flash d'Anna, merci à toi.
Merci.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Place à l'interview avec Place des Droits ce soir. À toi, Aïsa.
Et oui, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Géraldine Guilpin, vêtue de son débardeur noir. Vous êtes chef de projet lutte contre les violences faites aux femmes, prévention de la délinquance à Rennes Métropole. Bonjour.
Bonjour.
Pour la 7e année consécutive, la ville de Rennes et le conseil départemental d'accès aux droits d'Ille-et-Vilaine organisent l'événement Place des Droits. Cette année, ça se passe le 28 et 29 mai au 360 et à l'hôtel Rennes Métropole, donc demain et après-demain. Pour commencer, qu'est-ce que c'est Place des Droits ?
Alors, Place des Droits, donc, c'est un événement parmi d'autres actions pour travailler sur le non-recours des citoyens et des citoyennes, à la fois sur des questions, par exemple, de violence. C'est un des sujets qu'on aborde durant ces deux jours, mais aussi sur des droits plus quotidiens, sur les questions, par exemple, de droits du travail, de litiges, d'arnaques, qui peuvent tout nous arriver, qui peuvent à tous et à toutes nous arriver. Et on a remarqué, on avait fait une évaluation il y a quelques années auprès de Rennes et Rennais, et finalement les gens ne connaissaient pas trop les partenaires de l'accès aux droits, alors que sur la ville de Rennes, il existait, même sur la métropole, un certain nombre de permanences juridiques gratuites, soit tenues par les avocats, des associations, des juristes, etc. Et en fait, très peu étaient connues, alors que quand on lit un texte de loi ou une décision du tribunal, on se rend compte que ce n'est pas si facile, qu'on n'a pas fait d'études de droit, de savoir de quoi il en retourne toujours exactement. Donc voilà, là l'objectif c'est un événement sur deux jours pour faire parler du droit et puis de ceux qui le font sur le territoire.
Vous avez parlé justement des partenaires. Qui sont les partenaires pour cette édition ?
Alors, on a une vingtaine de partenaires. Donc, on a des institutions, des services de l'État. Je pense à la DETS, qui s'occupe de toutes les questions de travail. On a aussi des délégués du Défenseur des droits, donc qui viennent parler de lutte contre les discriminations, notamment. Des associations, je pense au MRAP, au CIDFF, au département aussi, qui est là, notamment sur la place la question des mineurs. Ça fait partie des compétences du département. J'en oublie, ils vont m'en vouloir. Les avocats, bien sûr, et les notaires également. Donc, c'est assez divers.
Et pourquoi justement c'est important de faire des événements comme Place des Droits ?
L'idée, c'est vraiment de travailler à de la visibilité un peu, de venir ici vous en parler par exemple. Tout au long de l'année, on essaye aussi de former, d'informer les professionnels qui peuvent orienter, les professionnels sociaux, etc. Mais vraiment d'appuyer. Et puis aussi, ça permet nous de faire équipe avec tous les partenaires, de mieux se connaître, de mieux s'orienter, puis à terme d'avoir un service au public qui est plus efficace.
Et justement, vous l'avez un peu abordé, le droit, ça peut vite paraître complexe quand on s'y connaît pas du tout. Comment on le rend accessible ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, on a des professionnels dont leur travail est de rendre ça pédagogique, de faire comprendre. Je pense notamment au DECODE, le point d'accès au droit des jeunes. Elles seront présentes, les deux juristes, demain. Donc, elle reçoit vraiment des publics 14-30 ans pour vraiment expliquer, quoi. Essayer de tirer le fil de la question d'une personne qui viendrait les voir. Je ne sais pas, moi j'ai 18 ans, je voudrais un titre de séjour, avoir la nationalité française. Comment je peux faire ? C'est extrêmement complexe. Le droit change tout le temps, en plus, notamment sur certaines matières. Donc, elles viennent vraiment expliquer, amorcer les procédures aussi. Et ça, c'est un peu le travail, en général, des avocats ou des juristes, de venir expliquer... Et de venir dire à la personne voilà ce que vous avez comme possibilité et qu'est-ce que vous pourriez faire avant peut-être de poursuivre, de déposer plainte, de faire appel à un avocat sur du plus long terme. Donc c'est vraiment de l'information et de l'explication.
Et ça, c'est surtout pour la journée de demain, du coup le jeudi 28 mai de 9h à 17h, c'est au 360, cours des Alliés à Rennes. C'est des parcours qui seront ludo-pédagogiques autour de l'accès au droit. Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Alors c'est vrai que demain, on a un forum grand public, donc pour ceux qui veulent venir. Et après, on accueille des groupes de jeunes, soit des lycéens ou des jeunes aussi, sur des parcours, des jeunes de 25 ans, etc. Et l'idée, c'est de leur faire rencontrer différents partenaires dans ce forum. Donc ils ont un personnage fictif qu'ils vont suivre, à qui il arrive de trois situations pas très évidentes. On a essayé un peu de varier. Et l'idée, c'est d'essayer de répondre à la place du personnage. Qu'est-ce que je ferais ? Donc de se rapprocher du professionnel pour essayer de comprendre c'est quoi son métier et se mettre à la place. Et l'idée, ce sera quand eux, peut-être, ou elles auront un souci un jour, de savoir où elles pourront trouver l'information. Elles n'auront pas forcément la réponse, mais de savoir vers où je peux aller et que c'est des professionnels qui sont accessibles.
Justement, Place des Droits, c'est gratuit, ouvert à toutes et tous. Le but, c'est aussi de rassembler différents et différentes professionnels du droit. Pour échanger, est-ce que vous constatez justement que chez cette tranche des 14-30 ans, on connaît plutôt mal nos droits ?
Oui, je dirais que ce n'est pas spécifique quand même au moins de 30 ans, mais c'est vrai que c'est aussi un âge de la vie où on s'autonomise, on devient indépendant. Donc on a aussi beaucoup de démarches et changements dans la vie. Donc on va être confronté à des nouvelles choses, la question d'avoir un logement, un travail ou autre. Qui vont poser des questions de droit fatalement, notamment quand il n'est pas respecté. Et c'est vrai, ce qu'on a remarqué aussi sur le public de cet âge-là, c'est ça va être un peu dans l'urgence. C'est-à-dire la non-compréhension vont faire qu'au moment où, par exemple, je pense à des jeunes qui ont beaucoup d'amendes mises à distance, etc., ils vont se retrouver avec des dettes extrêmement importantes. Et le jour où ils vont se mobiliser, en parler à leur animateur jeune ou à un adulte de confiance, en fait, ils auront... c'est le moment où il y a un recouvrement potentiellement. Donc, ça demande une réponse des fois un petit peu spécifique, d'où le point d'accès aux droits des jeunes. Et puis de venir un petit peu, je dirais, oui, délimiter où est le problème. C'est vrai que des fois, les adultes vont venir pour un problème précis. Des fois, chez le public jeune... peut retrouver ça aussi un peu plus de confusion ou plus de problèmes. Et puis des fois aussi, c'est l'occasion de poser des questions sur des situations familiales ou des situations de couple de jeunes et peut-être de parler aussi de choses où ça n'aurait pas été la première expression des usagers et des usagères.
Vous parlez justement un petit peu de l'urgence. Une fois qu'on est face au problème, on s'en inquiète. Le but, c'est du coup aussi de faire beaucoup de prévention pour vous ?
Oui, tout à fait. Ça aussi, ça fait partie de travail qu'on fait, des interventions qui peuvent se faire soit dans des établissements scolaires, mais aussi voilà, auprès de structures jeunesse du territoire pour faire connaître les droits en essayant de rendre ça quand même assez pédagogique et assez ludique. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont vraiment faites par le Décode. Et y a souvent beaucoup de questions qui viennent sur le droit pénal, sur le droit de la famille. Voilà, c'est des choses qui reviennent assez souvent.
Et justement, on va revenir sur la programmation. La journée du 29 mai, c'est un ciné-débat. Pourquoi avoir fait le choix du ciné-débat ? Est-ce que c'était pour justement varier un petit peu l'offre ? Pourquoi c'était important justement de la varier alors ?
Pour toucher un plus grand public. C'est vrai qu'on avait osé ça sur une journée et depuis l'année dernière, on a décidé de proposer un ciné-débat pour avoir peut-être plus d'établissements et en accent aussi sur un sujet particulier qui est la question des violences sexuelles, peut-être d'appuyer sur ce sujet plus particulièrement en laissant les autres pouvoir se faire sur la deuxième partie de l'événement. Donc c'était important pour nous parce que c'est vrai que c'est un sujet qui monte beaucoup, qui est de plus en plus parlé et évoqué par les jeunes et les moins jeunes aussi. Et face à une justice, des fois, on ne comprend pas la question des classements sans suite qui sont très nombreux sur les violences sexuelles, comment ça fonctionne. La peur de porter plainte, qu'est-ce que ça peut donner aussi après. Donc l'idée, c'était de venir un petit peu travailler ça à travers un documentaire qui est assez... on a eu de la chance de le trouver. C'est vrai que ça parle d'une affaire entre deux jeunes de 18 et 22 ans. Voilà aussi la question on parle à ce public à peu près du même âge, sur un auteur et une victime qui ont à peu près le même âge. Une histoire qui pourrait être assez banale, s'il n'en était pas terrible, et qui peuvent leur parler.
Et justement, le documentaire, c'est « Viol, défi de justice » de Marie Bonhomet, si je ne me trompe pas. C'est une projection qui dure un petit peu plus d'une heure et c'est à partir de 15 ans. Mais justement, vous avez parlé de tout ce contexte, le fait de ne pas oser porter plainte. Depuis le mouvement MeToo, le nombre de plaintes pour viol, il a doublé. C'est seulement 10% d'entre elles qui aboutissent à une condamnation criminelle, pardon. Et qu'est-ce que vous voulez dire à celles et ceux qui nous écoutent, qui disent que ça ne sert peut-être à rien de poser plainte vu que ça va être classé sans suite ?
C'est vrai que la question, et on en parle des fois, le viol, c'est un crime qui a lieu dans l'intime et souvent peu de témoins. La justice peine des fois à faire ressortir la vérité de la justice, même si c'est pas toujours la vérité qu'on rencontre. Mais je trouve que quand même le fait d'avoir pu, la libération de la parole à ces victimes qui ont osé parler, mais aussi dans les médias et aussi auprès de la justice, à aller déposer plainte, ça a quand même obligé les institutions à bouger. Bien sûr, la police, la justice... où on voit qu'il y a des dispositifs de plus en plus importants, où c'est vraiment une question des professionnels de plus en plus formés au sein de la justice, mais aussi d'autres institutions, dont la mienne à la ville de Rennes, où la question de l'engagement et de l'investissement sur ces sujets, de mettre en place des moyens d'accueil des victimes, a fortement augmenté. Et je pense à la Maison des femmes de Rennes. Où avant il y avait des choses qui existaient, mais là vraiment l'idée de pouvoir accueillir plus de monde, plus de victimes, et de les préparer aussi, les déposer plainte, c'est pas facile, venir accompagner c'est possible, venir accompagner d'un avocat ou d'une avocate c'est possible aussi, et du coup si c'est trop dur de travailler aussi, de venir voir des associations pour venir évoquer ce qu'on a envie, nos besoins, et de se faire aussi un peu aider, un petit peu accompagner sur ce chemin difficile. Il y a des choses aussi qui existent.
Et du coup, pourquoi c'est important de vraiment porter plainte ?
Parce que du coup, si on porte pas plainte, la justice, elle changera jamais. Même si évidemment le classement sans suite, c'est extrêmement compliqué. Après, ce qu'on voit aussi dans je reviens au documentaire, c'est toute la difficulté pour les magistrats. C'est vrai que ça se passe dans une cour criminelle où il n'y a pas de jury populaire, mais de juger un crime avec deux protagonistes et de ce qu'ils en disent sur un texte de loi. Et la question du dépôt de plainte, ça avait aussi bougé des lignes. Hein. Il y a des lois qui ont changé, notamment sur la violence sexuelle sur mineurs, la question du consentement ou non, de son âge, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et il y a quand même des affaires qui arrivent au bout. Il y a quand même des affaires qui sont jugées. Donc on sent qu'on est sur un mouvement, c'est pas suffisant. Mais voilà, de continuer dans ce mouvement pour vraiment... voilà, avoir pour les victimes une écoute et un accompagnement, puis une justice plus à leur écoute.
Et vous nous le disiez justement, la parole, vous constatez qu'elle se libère un petit peu. Et justement, j'imagine que c'est aussi avec des événements comme ça qu'on voit ces avancées.
Oui, des événements comme ça. Et puis pour tous les professionnels qui travaillent au quotidien. On a vraiment vu... Et puis aussi des personnes plus âgées qui sont venues parler de violences sexuelles vécues dans l'enfance ou voilà, dans leur jeunesse. La question de l'inceste, notamment, était quelque chose de très peu parlé, très tabou. Et aujourd'hui, dans les accueils qui existent sur les professionnels, c'est quelque chose qui est évoqué aujourd'hui. Donc là, on voit vraiment voilà, une sorte de révolution, un peu presque, qui s'est déroulée ces dernières années.
Okay, justement, une petite dernière question, mais c'est la septième édition, pardon. Vous voyez que le public est toujours au rendez-vous, et j'ai une autre question dans celle-là. Mais comment on monte un événement comme celui-là? Où est-ce qu'on trouve les investissements? Où est-ce qu'on motive un petit peu les gens à se battre pour que ça continue d'exister?
Alors, on a le soutien de la ville de Rennes, notamment sur la communication, et du conseil départemental de l'accès au droit. Mais après, c'est beaucoup toute l'équipe qui travaille, c'est beaucoup de temps humain de venir installer, de venir parler, de communiquer dans son réseau, puis d'animer les stands, de parler avec le public. Donc, c'est avant tout des moyens humains. Et le public, oui, on l'espère, il était au rendez-vous jusqu'à maintenant, notamment public jeune, on attend environ 300 jeunes sur l'événement. Donc voilà, après le grand public, on espérait qu'avec la chaleur, ils viendront quand même.
Et oui, Place des Droits, c'est gratuit et ouvert à toutes et tous. On le rappelle qu'il y a des numéros aussi qui existent, avec des permanences, pardon, gratuites qui sont assurées par les professionnels du droit. C'est du mardi 26 au lundi 1er juin. Et donc, c'est de 9h à 17h30. Le numéro, c'est 08 00 95 35 45. Si vous êtes intéressé pour le festival le 26 et 29, pensez à vous inscrire. Et les informations sont à retrouver sur le site internet de la CDAD de Rennes. Merci d'être venu sur le plateau. Et pour rester sur le sujet de la justice, notamment sur la loi SUR, c'est mardi 2 juin, on recevra deux avocates du barreau de Rennes dans le studio Tilab.
6h avant minuit.
6h avant minuit.
Nouvel épisode de la chronique psychipique. Aujourd'hui, Marie-Lune vous présente les bienfaits de l'action de pleurer sur la santé, notamment sur la santé mentale.
Ici, on ne miaule pas. Ici, on dit que pleurer, dans une certaine mesure, c'est bon pour la santé. Alors, les pleurs, il y en a plusieurs. Il y a ceux de type physiologique et ceux qui sont émotionnels. Les larmes de type physiologique protègent nos yeux des poussières, des corps étrangers, des substances irritantes, et les larmes émotionnelles ou psychiques produites à la suite d'une douleur aiguë ou d'une émotion, comme la joie, la colère ou la tristesse, sont celles qui vont nous intéresser. On considère que pleurer est une réponse naturelle à nos ressentis et émotions. C'est aussi un mode de communication non verbale. Dès la naissance, lorsque nous sommes bébés, les pleurs nous permettent de communiquer pour dire la faim, la douleur ou le besoin d'un câlin. Les pleurs du bébé varient en intensité et plus les pleurs sont forts, plus l'enfant est en détresse. Vous voyez ? Donc, à l'âge adulte, les pleurs conservent cette fonction communicative. Pleurer exprime un besoin d'aide et permet d'être aidé. En neurosciences, on considère que les neurones miroirs peuvent être impliqués dans ce processus.
La psychanalyse le nomme le transitivisme.
Les larmes de l'autre nous rappellent notre propre vulnérabilité et, de cette façon, une identification émotionnelle s'établit. Pleurer génère de l'empathie chez les autres. Quand nous voyons une personne pleurer, normalement, notre première réaction est d'essayer de la réconforter. Avec les larmes émotionnelles, le corps libère deux hormones puissantes qui jouent un rôle dans notre bien-être, l'endorphine et l'ocytocine. Ces substances créent une agréable sensation de tranquillité. Pour cette raison, après avoir pleuré, nous sourions souvent et nous nous sentons relaxés. comme dit la chanson. Non ? Pour le moral, c'est bon pour le moral. Et parallèlement, pleurer libère des toxines et réduit le cortisol, une hormone du stress qui est générée par la tristesse, la peur, l'anxiété et les tensions. À forte dose, cette hormone endommage nos défenses immunitaires, ce qui nous rend plus à risque de tomber malade. Toxines et cortisol évacués, nous entrons dans un état de calme qui nous permet même de mieux dormir. Et au point de vue psychique, pleurer est parfois un acte libérateur, un moyen de dire l'indicible des affects que nous éprouvons. Nous mesurons alors ce qui fait souffrance ou compte pour nous. Et en raison de leur effet puissant et calmant, les pleurs nous permettent de réduire notre angoisse et l'intensité des émotions nocives que nous pouvons ressentir, ce qui nous rend plus lucides et aptes à trouver des solutions adéquates à nos problèmes. Mais bien que pleurer, on le voit, soit bénéfique pour notre santé physique et mentale, il y a toujours la croyance que les pleurs sont un signe de faiblesse. Dans de nombreuses cultures, un homme, dès son enfance, est éduqué à ne pas pleurer. Pourtant, se retenir de pleurer a de nombreuses conséquences négatives, et une personne qui ne se permet pas de pleurer quand elle en a besoin a tendance à manifester ses émotions par de l'anxiété, de l'agressivité ou de la colère. Donc, pleurer n'est pas une faiblesse, mais un outil de régulation émotionnelle qui nous informe sur ce que nous ressentons et cela nous amène à faire face aux difficultés de la vie. Si vous voulez en savoir plus, regardez les informations sur la chronique psychipique.
Et oui, c'était la chronique psychipique de Marie-Lune. Merci à toi et à bientôt pour une nouvelle chronique. On jette une petite oreille pour voir si un message sur notre répondeur.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
La radio sauvage.
Ben non, il n'y en a pas ce soir, vous n'avez pas osé. Je vous redonne le numéro 02 30 96 25 35. Passez le pas, on ne voit pas votre visage, on entend que votre voix. Vous pouvez même être anonyme. Dites-nous tout ce que vous avez à nous dire. 02 30 96 25 35. Et puis vous pouvez jouer aussi en ligne sur le site de Syllab. On vous propose de gagner une place ou alors une affiche pour la première édition de Châteaubriante. C'est un festival qui se déroulera au milieu des ruines du château d'Edé Bazouges le samedi 6 juin prochain. Au programme de 15h à 2h du matin, 9 concerts, de la pop, de l'électro, du rock garage, un karaoké acide, un thé dansant décalé. Aussi des activités pour les enfants l'après-midi avec des baby-foot, du ping-pong, du matériel créatif et du cyanotype pour jouer. Et pour gagner, vous avez besoin d'un mot de passe. Aïsa ?
Fantôme.
Yeah ! Fantôme, le mot de passe à rentrer sur c-lab.fr. Ce soir, c'était Timour pour la technique. Merci à toi et à demain dans 6h avant minuit.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure très
bien. 6h.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du show.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.